Bienvenue, chers auditeurs, sur les voies de la franchise. La franchise et le commerce associé sont au cœur de notre quotidien. C'est pourquoi, sur les voies de la franchise, je donne la parole à tous les acteurs de ces réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont un jour décidé de créer leur business. On y parle entrepreneuriat, transmission, entraide, marketing, développement commercial. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute. Aujourd'hui, avec Christophe Blondeau, cofondateur de Club Immo Privé, nous allons parler immobilier, innovation, satisfaction client. Club Immo Privé est né en septembre 2018 et depuis le début de l'année 2019, il recrute des franchisés. Un club immo privé a ainsi déjà ouvert à Val d'Europe, Maison Alfort et Rouen, et d'autres projets sont en cours. Mais avant de parler de club immo privé, parlons un peu de vous, Christophe, de votre parcours.
Bonjour, merci de me donner la parole. J'ai 56 ans, j'ai un parcours essentiellement marqué dans l'immobilier, parcours en partie dans la transaction dans le neuf, dans la transaction aussi dans l'ancien. J'ai eu une période dans laquelle j'ai travaillé pour un gros franchiseur qui aujourd'hui fait partie des leaders, qui m'a permis d'acquérir l'expérience aujourd'hui que je mets en place dans Club Immo Privé. J'ai travaillé pour le réseau Guy Hoquet. Au départ, pas tout à fait à l'origine de la création de la marque, mais pratiquement, puisque quand j'ai intégré, il y avait une petite trentaine d'agences et aujourd'hui, ils sont plus de 600 ou 500 agences. Quoi vous dire d'autre? Rien. On va peut-être parler maintenant de la marque. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, bien sûr. Alors, Club Immo Privé, c'est un club ou c'est un réseau d'agences ou ça, comment on se situe? Pourquoi ça s'appelle Club Immo Privé?
Alors, avant tout, Club Immo Privé, c'est une nouvelle expérience immobilière. On est parti d'un constat avec Florian Parent, mon associé, qu'aujourd'hui, les agences immobilières n'ont pas... Enfin, nombreuses agences immobilières continuent à travailler dans le modèle à l'ancienne, sans forcément rajouter des nouveaux moyens de communication ou des nouveaux moyens d'accompagner les vendeurs et les acquéreurs pour réaliser leurs transactions. L'idée au départ, c'est de... Tout est dans le nom d'ailleurs. Hein, l'idée au départ, c'est de créer un club dans lequel on apporterait des services aux clients vendeurs et aux clients acquéreurs. Et le meilleur moyen de matérialiser ce club a été par le site internet.
D'accord.
D'ailleurs, je vous l'annonce, on est en train de le refonder et prochainement, je pense, dans le premier trimestre 2020, il va considérablement être modifié. Donc l'idée, c'est d'apporter via ce club des services qui dépasse le service classique de la transaction immobilière.
Oui.
Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'un internaute va sur un site immobilier, généralement, il y va essentiellement pour aller à l'offre de biens que propose...
Il vient chercher des offres.
Des offres, oui. D'accord. Nous, on a essayé de mettre en place, et c'est là où justement on est en perpétuelle évolution, on essaie de mettre en place d'autres services par lesquels l'internaute, le client, vendeur ou acquéreur, serait à même de venir dans notre club.
Alors, quel type de service, par exemple?
Alors, déjà, clairement, il y a aussi les biens à vendre. Hein.
Oui, bien sûr.
On garde quand même cette trame, sauf que on a rajouté en plus de ça, on a mis en place de manière assez forte une véritable conciergerie.
Oui.
D'accord. Alors, la conciergerie, c'est pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour certains, ils l'assimilent à l'hôtellerie. La conciergerie dans l'immobilier, c'est tous les services qui vont entourer un projet immobilier, que ce soit lors de l'aménagement ou lors du déménagement.
D'accord.
Lorsqu'on emménage ou lorsqu'on déménage, on va commencer par déménager, on a besoin de services de déménagement.
Déménageant, déjà, oui.
De carton. De
transfert d'abonnement, de clôture,
oui. De clôture, etc. Mm-hmm. Et lorsqu'on emménage, c'est la même chose.
Oui.
On aura besoin de transfert de compte, que ça soit électrique, que ça soit téléphonique, ou que ça soit tous les autres comptes possibles. Donc l'idée, c'est que à la fois la personne puisse aller sur notre site pour effectivement consulter les annonces, mais aussi bénéficier de cette conciergerie.
D'accord.
Qui est entièrement dédiée, puisque nous avons un concierge qui est à disposition de nos clients 6 jours sur 7.
D'accord.
Et
donc c'est compris dans le service, il n'y a pas un surcoût, c'est compris,
pas.
On adhère au club.
Voilà.
Et quand on adhère au club, on a accès à cette conciergerie.
Tout à fait. Alors l'adhésion est simple, hein, c'est un login, on s'inscrit sur le site par une adresse mail.
D'accord, il n'y a pas de cotisation.
Absolument pas, c'est nous qui supportons le poids de... Enfin, le coût de cette conciergerie.
D'accord, donc c'est cette innovation-là qui crée ce nouveau service, cet immobilier autrement, à travers effectivement ce club qui offre des services de conciergerie différents.
En plus de cette conciergerie, on a mis en place aussi des ventes privées. Alors ça, c'est assez innovant, parce qu'on n'est pas nombreux à le faire. Enfin, à ma connaissance, on est plutôt les premiers à faire ça.
Alors, c'est quoi ces ventes privées ?
Alors, ces ventes privées, c'est...
C'est le WIPI de l'immobilier ?
Oui, c'est la possibilité de... Lorsque les personnes nous font confiance, les mandants ou les propriétaires nous font confiance pour la réalisation de la vente de leurs biens, de le diffuser en priorité et exclusivement à notre fichier client.
D'accord.
Alors, ça s'adresse en partie aux investisseurs, parce que l'investisseur, lui, est toujours friand d'informations off-market,
oui.
Il y a un terme un peu hésité aujourd'hui. Et en fait, par le fait que les propriétaires nous confient la vente de leurs biens, avant d'utiliser les canaux de diffusion classiques qui sont se loger, à vendre, à louer, le bon coin, vendu, paru, vendu, etc., j'en passe, et bien on va d'abord privilégier la diffusion de leurs biens sur notre site.
D'accord.
Donc, accès uniquement aux gens qui se sont inscrits.
Oui.
Et en contrepartie de la confiance que nous font les mandants ou les propriétaires, on va leur faire une remise de 20% de nos honoraires.
D'accord.
Ainsi qu'aux acquéreurs qui se seront inscrits avec 10% d'honoraires de remise.
D'accord.
Donc l'idée, c'est de en amont d'une transaction, c'est de commencer par diffuser le bien sur notre site.
D'accord.
Donc ça, c'est une des particularités qu'on a mis en place. Après, par la suite, lorsque le bien ne serait pas vendu par le biais du club, on le mettrait en diffusion par les canaux traditionnels des sites marchands que j'ai cités au préalable.
D'accord. Donc ça veut dire qu'on a des alertes aussi quand on est inscrit sur le site, on a après une alerte en disant il y a un nouveau bien qui correspond à vos standards ou à ce que vous cherchiez, ou il faut aller régulièrement sur le site pour consulter les offres et se connecter, ou est-ce que ça marche comment ?
Alors c'est effectivement la finalité de notre projet qui n'est pas encore tout à fait fini, c'est à terme, très rapidement, puisque c'est en finalisation, de pouvoir recevoir des alertes par rapport aux critères précis qu'aurait mis la personne qui serait inscrite au club dans le cadre de ses recherches.
D'accord.
Il faut savoir quand même que même si aujourd'hui Club Immo Privé est installé pour l'instant en Ile-de-France, l'idée c'est de s'étendre sur tout le territoire, en prenant notre temps bien entendu, mais le marché immobilier est très particulier, parce qu'il y a trois types de marchés immobiliers. Vous avez des marchés type parisien, où il y a un réel déséquilibre entre l'offre,
oui,
qui est faible et une demande qui est très forte. Après, vous avez les marchés équilibrés, hein, qui sont plutôt, comme son nom l'indique, où des offres sont plutôt en phase avec les demandes. Et après, vous avez des marchés inverses, où il y a une offre qui est très importante, avec une faible demande.
Oui.
Donc, ce produit-là, les ventes privées, s'adressent quand même essentiellement sur des marchés où il y a une tension. Voilà, exactement. Parce que dans notre secteur, ça n'aura pas forcément d'intérêt. L'idée de ce club, c'est d'avoir différents éléments par lesquels les personnes qui vont sur notre site y trouvent un intérêt, en fait. Hein.
Oui.
Donc, la conciergerie. Parce que la conciergerie peut être utilisée par n'importe qui n'est pas forcément un client à nous. Hein.
Ah d'accord.
Il est inscrit, il n'a pas fait de transaction avec nous, même si la finalité c'est quand même que ce soit quelqu'un qui ait fait une transaction avec nous, mais quelqu'un qui a envie, a l'intention d'utiliser de conciergerie. J'ai pas tout à fait dit un élément important, c'est qu'en plus de ça, ils vont bénéficier de tarifs préférentiels qui ont été négociés par cette conciergerie.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
D'accord.
D'accord.
Donc, vente privée, conciergerie. Les enchères immobilières, c'est aussi un élément qui nous différencie qui nous différencie des autres réseaux. Alors, tout ce qu'on fait existe, hein, bien entendu. Ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment voulu le matérialiser sur notre club.
D'accord. D'accord.
Les enchères immobilières, c'est la possibilité d'un vendeur de pouvoir tester le marché, soit par des enchères à la hausse, soit par des enchères à la baisse, et de souvent régler un problème récurrent qui est dans notre métier, le prix.
Oui.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, quel que soit le marché, même le marché le plus tendu possible, si on n'est pas au prix, on ne vend pas.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans notre métier. D'accord ? Donc, les enchères vont nous permettre, par exemple, sur un produit, je vous dis une bêtise, bah 100.
Oui.
Un produit 100 qui aurait des difficultés à partir sur le marché, de démarrer avec une enchère à base 70.
Oui.
Donc, générer de nouveaux acquéreurs potentiels qui viendraient donc s'inscrire sur cette enchère, visiter le bien. Après visite de ce bien, validation de notre part de leur dossier, et avec une finalité, dans les 8 à 10 jours après le démarrage des enchères, une enchère en ligne.
D'accord.
Qui dure une demi-heure, par lesquelles les inscrits, donc les personnes qui auront visité, qu'on aura validé, pourront enchérir sur le bien. Donc si on part basse 100 avec une démarrage des enchères de 70, qui vont pouvoir réenchérir par palier de 1000 ou 2000 ou 3000, suivant ce qu'on aura négocié. Et en finalité, à la fin des enchères, à la fin de la demi-heure ou de l'heure qu'on aura fixée, eh ben, il y aura un prix qui sera déterminé.
D'accord.
Et le vendeur aura possibilité soit d'accepter cette offre, ou soit éventuellement de la refuser.
D'accord.
Ça permet déjà de dynamiser le marché.
Oui, hein. Tout à fait, oui.
Et puis ça permet surtout
de tester. Quel est jusqu'où les gens sont prêts à mettre pour acheter ce bien.
Si on a sur des marchés un peu tendus, on peut même avoir la bonne surprise d'avoir démarré en dessous et de dépasser le prix du mandat.
Oui.
Donc c'est un... En tout cas, ça plaît.
Oui.
Ça plaît beaucoup. On a réalisé quelques transactions déjà en 2019. On vient d'en réaliser une très récemment sur Paris d'ailleurs, un appartement dans le 12e arrondissement.
Oui. Donc, pas loin d'ici.
Nous ne sommes pas très loin. Effectivement, on est parti sur un prix mandant à 210 000 et on a démarré à 170 et je crois qu'on finit à 195.
D'accord.
Donc vous voyez.
Oui, oui.
Et on a dynamisé le marché. L'acquéreur a une sensation de une réalité d'acheter au bon prix puisque globalement. Il est en dessous de ce que nous on avait mis en vente et le propriétaire est satisfait puisque on a réglé sa problématique de mise en vente de son bien.
Et puis ça sans doute permet d'aller plus vite aussi.
Oui,
parce qu'il y a cette notion d'enchère qui est un peu on a l'impression de faire une bonne affaire, on est un peu dans cette notion là d'enchère et
c'est
puis
très ludique.
Voilà, c'est ça,
c'est très
il y a un
ludique.
Côté un peu ludique.
C'est très ludique. Alors Il faut faire attention et pas amalgamer avec les véritables enchères, hein,
oui.
avec des commissaires priseurs ou autres, qui eux, entre parenthèses, prennent un pourcentage en plus du prix de vente. Hein. Mais par contre, effectivement, c'est assez ludique et ça permet de dynamiser un produit qui stagne ou qui a du mal à se vendre. Parce que malgré le marché tendu, il y a des milliers d'appartements qui ne sont pas vendus, même à Paris.
Oui.
Parce qu'en fait, globalement, les
personnes les mettent trop cher.
Trop cher.
Oui, oui. En pensant
cher.
Qu'effectivement,
que comme
tout se vend voilà,
tout
très
se
cher.
Vend, etc.
Oui,
etc.
Très bien. Et donc, on a évoqué le sujet tout en début de ce podcast, de cet épisode. C'était cette notion de franchise, de développement en franchise. Donc, vous avez déjà 3 agences. Et ce développement en franchise passe forcément par une agence physique où ce sont des agents qui vont prendre le nom Club Immo Privé. Comment ça se développe en franchise ?
Alors, le démarrage de notre projet était d'abord de faire une agence pilote, notre propre agence. Aujourd'hui, on commence à réfléchir à changer de modèle puisque c'est très chronophage. Et en fait, on a vraiment l'intention en 2020 de passer le cap et de devenir réellement beaucoup plus des franchiseurs, des agents immobiliers. Mais on a quand même voulu tester nos produits et nos outils.
Bien sûr.
Donc, l'idée au départ, c'est d'apporter avant tout par rapport à d'autres franchises traditionnelles, des outils, des éléments différenciants pour que le créateur, le porteur de projet puisse avec beaucoup d'autonomie puisque... Il faut savoir qu'un franchisé est juridiquement et financièrement indépendant.
Oui.
Avoir des outils différenciants par rapport à toute la concurrence du secteur. Donc, tous les outils, tous les éléments que j'ai mis en place. Je fais juste une petite parenthèse. On a mis aussi en place des assurances exclusives pour les propriétaires. On met beaucoup en avant les photos professionnelles.
Oui.
Lorsqu'un mandant nous confie la vente de son bien, on propose des visites virtuelles, des visites immersives. On peut même aller jusqu'au drone si le produit le permet.
Ah oui.
D'un point de vue législatif, hein, parce que oui. Il y a des zones qui ne le permettent pas. Donc tous ces éléments-là doivent faire en sorte qu'un porteur de projet, on va dire lambda, qui se lève un matin et qui a envie de changer de vie,
oui,
de se lancer dans l'aventure de la création de l'entreprise, souvent...
C'est souvent des gens qui changent de vie ?
C'est souvent des gens qui changent de vie.
Oui.
C'est souvent des changes de vie parce que âge où le marché de l'emploi est compliqué, parce que marre d'être sous couvert d'une direction, parce que envie de se lancer à l'aventure de la création, d'être son propre patron.
Oui.
Après, c'est aussi parfois des gens qui ont un changement de vie personnelle,
oui, hein,
un changement de région, un changement de vie privée, mm-hmm, hein, qui fait qu'ils se lancent dans l'aventure de la création. Et puis, il y a quand même cette petite graine que tout le monde a d'envie un jour d'être
son propre patron.
D'être son propre patron. Après, il n'y a pas d'âge, parce qu'il y a des créateurs à 25 ans,
oui,
il y a des créateurs à 55. Hein. Je suis en contact avec un monsieur qui a mon âge et qui est en train de réfléchir à ouvrir une agence dans le Nord.
D'accord.
Après avoir eu un parcours très important, envie de se lancer, lui, dans la création. Mais ce sont effectivement des gens, lorsqu'ils vont se lever le matin, ont envie de créer leur entreprise. Souvent, le problème qu'ils ont déjà, c'est de savoir dans quel domaine ils vont,
oui,
se convertir, dans la franchise. Hein. Alors, comme il y a pléthore de...
Oui. De choix, oui, oui.
Et dans les choix, il y a pléthore d'enseignes.
Oui.
Donc après, quand ils arrivent à se recentrer sur un domaine, notamment l'immobilier, après, là, c'est encore une fois pareil, il y a pléthore d'enseignes. Donc comment se différencier ?
Oui, c'est ça, oui.
Comment se différencier ? Alors déjà se différencier par la pertinence de nos outils.
Oui.
Et...
L'originalité du concept, la notion qu'effectivement on ne va pas faire exactement comme tout le monde, qu'on va avoir quelque chose de différent.
C'est ça.
Et puis sans doute aussi votre approche de ces candidats à la franchise, qui est peut-être différente aussi.
Alors déjà une approche différente par rapport à leur profil, parce que nous on ne va pas forcément mettre l'accent exclusivement sur leurs moyens financiers pour réussir, même si ça demande un coût, hein, ça demande un investissement, mais on va plutôt essayer de trouver une relation humaine,
oui,
où ils ont envie de nous rejoindre et donc par cette idée au départ, après réflexion sur le fait que le club était matérialisé par un site internet, qu'aujourd'hui l'activité se concentre essentiellement via le net,
oui,
qu'en fait une vitrine aujourd'hui n'a plus forcément un intérêt, en tout cas peut avoir un intérêt mais n'est pas essentiel pour réussir.
Elle a peut-être quand même un intérêt de visibilité dans une ville où on ne connaît pas encore et que effectivement petit à petit le nom pour se faire connaître a besoin de cette visibilité mais peut-être pas non plus.
Aujourd'hui un Français, enfin un couple en France va réaliser une à deux transactions dans sa vie,
oui,
maximum. Alors il y en a qui en font 10, il y en a qui font jamais, si vous voulez, mais c'est la moyenne nationale. Donc ça veut dire que les personnes qui achètent un bien n'en achètent pas un tous les jours.
Mm.
Et même s'ils passent 50 fois, 30 fois par mois, on va dire 30 fois par mois, s'ils passent tous les jours pour aller prendre leur transport commun dans une agence, tant qu'ils n'ont pas un projet d'achat ou de vente, ils ne lèveront pas les yeux, si vous voulez, sur
l'agence.
Et paradoxalement, le jour où ils auront ce projet, ils vont plutôt avoir un réflexe d'ouvrir leur ordinateur et d'aller voir ce qui se passe. Déjà pour peut-être estimer leur bien,
oui,
et peut-être voir aussi les offres que va leur proposer le marché. Donc vous voyez, tout ça fait que l'agence immobilière physique a un intérêt plutôt pour l'organisation du travail du franchisé.
D'accord.
Pour réceptionner ses commerciaux,
oui,
pour travailler, pour animer son activité, mais pas forcément...
Une vitrine.
Pas forcément une vitrine.
D'accord.
Alors si aujourd'hui, vu qu'il y a un fort changement de la manière de commercialiser les produits en France, il y a beaucoup de boutiques qui se libèrent, puisque le fait qu'aujourd'hui il y a des commerces qui avaient nécessité de vitrines aujourd'hui passent à ne plus en avoir besoin,
oui, hein.
On voit même des restaurants aujourd'hui qui font que de la livraison et,
oui,
ne reçoivent même plus de clients. Donc on a aujourd'hui des opportunités de boutique, donc on va pas bien entendu à l'encontre, hein. Mais la problématique de la boutique souvent, et c'est ce qu'on peut reprocher aux grosses enseignes, c'est que souvent elles l'exigent pour faire briller en fait leur image, pour
D'accord.
faire briller l'image du franchiseur.
D'accord.
On n'est pas dans cet état d'esprit, en fait.
Hein. D'accord.
Et la problématique aussi de la boutique, c'est le coût que va générer cette boutique. Mmh. Donc, ça va greffer leur budget de démarrage que nous, on préfère qu'ils investissent notamment dans la communication ou dans le recrutement. Parce qu'aujourd'hui, la plus grosse difficulté dans notre métier, c'est la communication et le recrutement de commerciaux.
Oui.
Donc, on préfère que les dizaines de milliers d'euros qu'ils auraient mis dans une boutique avec une forte visibilité, ils investissent, même s'ils s'installent en bureau, plutôt dans du recrutement ou de la communication sur leur enseigne et sur leurs produits.
D'accord.
C'est comme ça qu'on voit les choses.
D'accord. Alors, le parcours du franchisé, il se passe comment chez Club Immo Privé ? C'est lui qui vient à vous ? C'est vous qui le démarchez ? Comment ça se passe, en fait ? Le premier contact se passe comment ?
Ben, on aimerait bien qu'ils viennent plus souvent vers nous.
Oui.
aujourd'hui, on communique essentiellement par des supports classiques qui sont des sites dédiés à la franchise.
Hein. Oui. Alors,
il y a des leaders, les Échos de la franchise, toute la franchise, l'Observatoire de la franchise.
Oui.
Donc, on en a choisi, on travaille pour l'instant qu'avec un seul, qui est le leader, et qui nous génère des contacts.
D'accord.
Mais
oui.
qui sont très dilués.
Oui.
Dilué, puisque effectivement, lorsque vous allez sur un site comme toute la franchise et que vous tapez immobilier, vous avez une cinquantaine d'enseignes.
Oui.
Donc, la personne qui se lève le matin, qui a envie de faire l'immobilier et se reconvertir, pour lui, c'est un peu compliqué parce que comment faire son choix ?
Tout à fait, oui.
Comment faire son choix ? Et puis, toutes les enseignes sont attractives.
Oui, et puis on ne peut pas forcément avoir le temps de contacter les 50.
C'est
et puis
ça.
Après, comment effectivement statuer entre les différentes propositions ?
Parce que des représentants de chaque marque seront sûrement très pertinents et auront sûrement des arguments pertinents pour les séduire. Hein.
Bien sûr. Donc vous avez réfléchi à cette question et vous avez abordé les choses un peu différemment, je suis sûr.
Alors, on a réfléchi à ça, effectivement. En plus, clairement, c'est une question aussi de budget. Aujourd'hui,
oui.
On n'a pas forcément envie d'investir des centaines de milliers d'euros pour la communication. Donc, on est parti sur un principe d'aller peut-être en amont via des partenaires du porteur de projet via les réseaux sociaux pour leur proposer notre offre lorsque leur projet est embryonnaire ou commence à émerger et effectivement aller les toucher directement par une suggestion de pourquoi pas faire de l'immobilier, pourquoi pas faire de l'immobilier.
D'accord. Avec donc c'est une réflexion sur le parcours candidat, réfléchir en amont.
C'est ça.
Et donc vous le faites par un peu profiling de ceux qui sont déjà venus à vous, de regarder un peu comment ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait, et du coup de revenir vous à des outils de communication ciblés sur des sites ou sur des réseaux, des choses comme ça, où c'est plutôt un comportement qu'ils ont eux et qui peuvent vous faire penser que peut-être ils vont avoir envie de créer leur entreprise.
Les deux, c'est un mélange des deux. Effectivement, c'est le constat de nombreuses années d'expérience du profil. Même si j'aime pas trop utiliser ce terme-là parce qu'il n'y a pas de, en honnêteté, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de règles, si vous voulez, on peut pas faire un portrait robot du franchisé.
Oui.
Il est ni féminin, ni masculin, ni grand, ni petit, ni jeune, ni vieux. Il n'y a pas de profil type. Il y a des éléments. Enfin, des profils qui se ressortent un peu, comme des personnes qui viennent de la grande distribution ou qui ont déjà fait du commerce ou qui. Mais c'est pas là-dessus qu'on peut se baser sur un développement de franchise.
Mais ils peuvent avoir peut-être des comportements, des comportements assez identiques
c'est
à
ça.
Un moment de donné où ils se renseignent sur comment je crée mon entreprise, comment je négocie mon licenciement.
C'est tout à fait ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a quand même une tranche dominante d'âge, hein, 40, 55 ans, c'est quand même la tranche dominante.
Hein. D'accord.
Parce que déjà, c'est la tranche où ils vont peut-être avoir aussi les moyens financiers.
Oui.
Parce qu'effectivement, lorsqu'on crée une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ben, il faut une mise de départ, parfois accompagnée par un prêt bancaire, mais il faut quand même une mise de départ.
Donc chez clubwimoprivé.com, c'est la mise de départ, elle est estimée à combien ?
Alors, c'est notre entretien d'aujourd'hui a double intérêt déjà de je vous en remercie de nous faire connaître, mais en plus de ça de communiquer sur un élément qu'on a décidé avec Florian Parent, c'est de lancer début 2020 pour les 10 premiers franchisés une offre d'exonération des droits d'entrée. C'est-à-dire qu'en fait nos droits d'entrée seront offerts aux 10 premiers franchisés qui vont nous rejoindre en 2020.
Ah ouais, c'est une bonne nouvelle. Merci d'en réserver l'exclusivité aux voix de la franchise.
C'est une exclusivité parce qu'en fait, les droits d'entrée, en réalité, même s'ils rentrent dans notre chiffre d'affaires, pour beaucoup d'enseignes, c'est des moyens qui permettent de faire fonctionner
le réseau,
le franchiseur,
oui.
Pas le réseau, le franchiseur, puisque la communication, la publicité, de toute façon, le franchisé en participe aussi, même pour la publicité nationale d'ailleurs, puisque certaines enseignes ont un moyen de rémunération à la fois par les droits d'entrée, mais par des royalties, et en plus par un pourcentage de leur chiffre d'affaires pour la communication nationale. Nous, on est parti là, on fait un test, on espère le plus concluant possible, de pas prendre de droits d'entrée.
D'accord.
Et en plus de ça, d'avoir une redevance fixe, justement, va permettre pour le futur porteur de projet de pouvoir se projeter plus facilement dans son projet de création, et n'a pas cet aspect intrusif qu'a le franchiseur sur le franchisé sur une vision de son chiffre d'affaires.
D'accord.
Puisque une redevance fixe ne nous exige pas à nous de lui
demander. De suivre du coup son chiffre d'affaires et de savoir où il en est.
Alors bien entendu qu'on va le suivre pour des raisons d'animation, pour des raisons d'accompagnement en tant que franchiseur, mais pas de cette manière intrusive de son chiffre d'affaires. Et ça on commence à se rendre compte que ça porte sûrement
sûrement quelque chose qui renforce l'intérêt et qui renforce l'esprit de je crée ma propre entreprise et je n'ai pas envie d'avoir à rendre des comptes.
C'est ça. Et c'est vrai que beaucoup de franchisés dans d'autres enseignes ne l'assimilent pas au départ.
Oui.
Ils ne se rendent pas forcément compte de cette particularité, mais très vite, ils sont un peu surpris.
Oui, après, il y a le rôle d'animation qui fait oublier un petit peu aussi cette notion, ce retour qui est... Si on a un rôle d'animation et de formation et de collaboration, parce que beaucoup parlent aussi de co-création quelque part, où il y a un transfert de savoir, mais il y a aussi une réciprocité qui s'installe entre les franchisés et le franchiseur sur justement cette augmentation du savoir collectif.
C'est ce que vous dites est intéressant parce que quand on a créé le réseau Guy-Hockey à l'époque, enfin moi très modestement j'étais un pion, hein, c'est pas du tout moi le créateur, hein, je suis arrivé au moment où la machine était déjà partie, mais effectivement j'ai souvenir que toutes les personnes qui entouraient le réseau à l'époque qui ont participé à gérer la croissance du groupe sont au départ des franchisés qui sont devenus eux-mêmes après on franchit le pas, ils sont devenus on participait à la création et au développement de la marque. Il y en a qui sont devenus des animateurs, des formateurs, qui ont même pris des postes importants, qui ont même fini par avoir la direction générale de l'entreprise, qui au départ en fait étaient des simples franchisés, parce qu'en fait je pense qu'un franchiseur doit utiliser les compétences de son franchisé.
Ben oui, tout à fait, oui.
Notamment encore plus dans une marque comme nous qui démarrons, où on va croiser des personnes qui ont des parcours de vie déjà importants et qui serait un peu dommage de pas les exploiter, enfin en tout cas de pas les exploiter dans le terme négatif, enfin le mot exploiter n'est pas tout à fait ce bon terme, mais les utiliser à bon escient.
Bien sûr.
Pour que la marque puisse...
Oui, c'est un enrichissement collectif, de toute manière, par rapport à cette création de réseau. Et les premiers franchisés sont souvent très importants dans le réseau, jouent un rôle très important, sont en général acteurs après de cette évolution et peuvent devenir peut-être des parrains des autres et jouent ce rôle de vitrine en disant « celui-là, il a réussi ». Et donc, effectivement...
En tout cas, c'est des ambassadeurs. Je ne dis pas qu'on va plus les chouchouter que les proches. Ceux d'après, mais disons notre investissement va être encore beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort, parce qu'en fait clairement, quand un grand réseau a 400 ou 500 agences et qu'il y en a 50 qui ferment par an, ce qui est le cas, hein, c'est à peu près le chiffre, ils sont noyés dans la masse si vous voulez, mais lorsque vous êtes un jeune réseau et que le réseau c'est pas simple de démarrer un réseau et qu'en plus de ça il y a des gens qui sont en difficulté au démarrage, ça peut très rapidement avoir un effet totalement inverse, c'est-à-dire que...
Ah oui, donc bien sûr, Très bien. Et donc, vous avez une ambition de ces 10 premiers pour lesquels ils auront une situation privilégiée. Donc, dépêchez-vous, amis franchisés, de venir chez Club Immo Privé. Et votre ambition pour 2020, c'est d'arriver à combien ?
Si on pouvait avoir déjà les 10 premiers franchisés, ça serait déjà une belle... belle réussite, et pourquoi pas être très ambitieux et avoir une quinzaine ou une vingtaine de franchises d'ici fin 2020. Mais si on arrive déjà à nos 10 franchisés en 2020, on sera très content, ce qui nous permettra de nous staffer, de nous structurer de manière un peu différente. Et après, vous savez, c'est le principe, hein. L'amorce est un peu difficile au départ, mais après, ça prend ou ça prend pas d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Prend,
hein. Oui.
La base, quand même, il faut savoir qu'à notre métier, dans notre vision des choses, c'est que c'est l'humain est la base du projet. L'humain, que ce soit nos commerciaux, que ce soit nos franchisés, c'est important pour nous, l'humain. D'ailleurs, c'est pour ça que nous-mêmes, on s'y implique de manière très forte.
Oui.
C'est ce qu'on transmet à nos franchisés et ce qu'on veut qu'ils transmettent à leurs commerciaux. D'ailleurs, c'est pour ça que dans notre charte d'engagement vis-à-vis d'un mandant, vis-à-vis d'un vendeur, on lui stipule qu'il n'aura qu'un seul interlocuteur le long de la transaction, que cet interlocuteur sera dédié exclusivement à lui, et ça fait partie de l'aspect club, enfin de l'aspect exclusif, entre guillemets.
Oui, d'ailleurs, vous avez une charte d'engagement, de réponse sur une rapidité de réponse très importante, et vous mettez la satisfaction très en avant de votre engagement.
La satisfaction du client, c'est la base, c'est la genèse, c'est les gènes de notre marque.
Oui.
C'est sur ça, sur ces éléments-là qu'on construit la marque, en fait. Hein. Alors, toujours des satisfaits, bien entendu, on le sait. Hein. Après, c'est la nature humaine aussi. Hein. Mais c'est vraiment, on va faire en sorte que la personne, même si on a raté quelque chose, ça arrive, hein, on va essayer de faire en sorte de trouver la solution et pourquoi on l'a raté et surtout ne plus faire la même erreur. Quoi.
Oui. Donc, vous allez leur donner la parole régulièrement à des intervalles réguliers par rapport au process de vente, ou c'est une fois qu'ils ont fait la transaction, qu'ils ont signé avec vous, à quel moment vous les interrogez vraiment sur cette satisfaction?
Alors, c'est vrai que beaucoup de réseaux communiquent sur 90% de nos clients sont
oui.
satisfaits. C'est vrai que généralement, ils le sont parce qu'ils ont réalisé la transaction. Hein. Donc, c'est assez facile.
Bah oui.
C'est assez facile. C'est vrai que généralement, l'interrogation, c'est pas qu'on veut pas le faire en amont, c'est pas qu'on veut faire pendant, c'est que la tête n'est pas là, le vendeur et l'acquéreur, ils sont plutôt dans leur projet de réalisation de cette transaction, et que on l'a testé, hein, parce que parfois on essaie de voir si, en tout cas on les accompagne.
Oui.
Effectivement, à la fin, on constate quand même qu'il y a une énorme satisfaction. Par contre, on les encourage. On a mis en place un CRM très performant. On va rapidement en parler. On a mis un CRM très performant qui nous permet de... Ben notamment hier, vous voyez, mon CRM m'a annoncé l'anniversaire de deux mandants, de personnes à qui j'avais vendu. Je leur ai envoyé un SMS. Et c'est rigolo parce qu'il y a un de mes clients qui m'a répondu... Monsieur Blondeau, en tout cas, merci, vous êtes très bon. C'était sympathique parce qu'en fait, il l'a compris comme étant une démarche commerciale, clairement.
Oui,
hein.
Oui, oui.
Mais il a quand même apprécié le geste, si vous
oui,
voulez.
Oui.
Et c'est notre CRM qu'on a mis en place, que surtout Florian a développé fortement. C'est vraiment son bébé qui va nous permettre d'avoir une base de données la plus efficace possible,
oui.
Qui va nous permettre d'avoir un suivi le plus efficace possible d'un client, que ce soit un acquéreur ou un vendeur, pour que justement, toutes les étapes que doit franchir un vendeur ou un acquéreur pour réaliser une transaction soit la plus précise possible.
Ah oui. Et puis ce CRM vous permet peut-être effectivement de garder un lien un peu permanent avec des personnes, même s'ils ne font que deux transactions dans leur vie. Il faut être présent le jour où ils ont décidé.
Il faut être présent parce que d'abord, eux-mêmes, s'ils n'en font que deux, ben, leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins en font peut-être d'autres.
Hein. Oui.
Donc le bouche à oreille, on sait, dans ce métier, est très important.
Hein. Oui.
Donc effectivement, si quelqu'un est content, ben, il a tendance à dire, écoute, si tu veux vendre ton appartement ou si tu veux acheter, va voir
Club Immo Privé. Très bien. Vous mettez, pour les candidats, en fait, vous avez différents... Est-ce que vous avez des critères, en fait, que vous mettez en place? Est-ce que vous m'avez dit, il n'y a pas de profil type? Il n'y a pas... On arrive à identifier un petit peu, mais est-ce qu'on doit répondre à un certain nombre de critères pour arriver à Club Immo Privé? C'est un savoir-être, un savoir-faire, plus l'un que l'autre?
Alors, il y a une marque très importante aujourd'hui qui est fortement médiatisée. À notre grande surprise, a mis l'accent uniquement au départ de son lancement de marque sur le savoir-être. Je pense que ce métier est un mélange subtil du savoir-être, mais aussi du savoir-faire. Et d'ailleurs, le savoir-faire, nous, on le transmet par une formation qui dure 4 semaines.
D'accord.
Alors, c'est plutôt la moyenne de ce que font les autres enseignes, hein. Mais 3 semaines théoriques et 1 semaine pratique in situ.
D'accord.
Lorsqu'ils ouvrent. Et une formation, un accompagnement permanent. Le savoir-être, j'aurais tendance à dire que le savoir-être, ça coule de source. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, humainement, si la relation dès le départ ne matche pas entre le futur, le porteur de projet ou celui qui a l'intention d'ouvrir son agence, si ça passe pas avec Florian Parent ou Christophe Blondeau, clairement
ça
passera pas.
Oui.
S'ils sont critiques, alors critique, le mot critique a double sens, mais s'ils sont critiques dans le bon sens, tout va bien, mais s'ils sont critiques dans le sens négatif de tout ce qu'on leur propose, clairement ça n'ira pas. Il faut qu'ils aient envie de nous rejoindre. C'est une réponse un peu pas tout à fait tout ce que vous attendiez, mais c'est...
Moi, j'attends pas de réponse.
Il n'y a pas de réponse a priori,
c'est vrai que...
Il n'y a pas de profil type. C'est un mélange subtil du savoir-être et du savoir-faire. Le savoir-faire, nous, on va leur transmettre.
Oui.
Et le savoir-être, il va se fabriquer, il va se construire au démarrage de la première relation. La relation, c'est le premier coup de fil. C'est la première fois qu'on se rencontre. C'est tout de suite voir si effectivement la personne est dans un esprit positif et s'il a les mêmes valeurs que nous, que l'humain soit la base de leur projet, même si c'est un métier d'argent, c'est la finalité l'argent, mais avant tout c'est un métier humain qui va permettre de réaliser un rêve ou un projet important pour une vie, hein, d'un vendeur ou d'un acquéreur. C'est avant tout ça la base.
Oui, peut-être qu'on peut imaginer aussi qu'on a besoin d'être très ancré dans sa région, dans sa ville, d'avoir des relations pour avoir effectivement des mandats, connaître des gens. Est-ce que ça c'est un élément qu'on regarde aussi, qu'on l'indique aussi peut-être aux candidats en lui disant il faut être un peu intégré dans son milieu, dans sa ville, on n'arrive peut-être pas, on se dit pas tiens je vais monter tout d'un coup une agence dans une ville où je ne connais personne. Est-ce que c'est pas plus compliqué?
C'est pas plus compliqué, mais ça sera peut-être plus long.
Oui.
Effectivement, un super conseiller immobilier. J'en ai reçu un récemment qui venait de Sète, dans les Roues.
Oui.
Il venait de Sète et il était connu comme le loup blanc. Il me disait, vous savez, moi, je faisais 3 ventes par mois, etc. C'est vrai que lorsqu'il vient en région parisienne, il a des compétences acquises, il a des connaissances acquises, mais il connaît personne.
Oui.
Donc, il va avoir un process de démarrage qui va être un peu plus long que celui qui, effectivement, est déjà sur place. Donc, encore une fois, ça sera plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Parce que si ça fait partie d'un projet de vie, notamment d'une mutation du conjoint ou de la conjointe, qui dit, voilà, finalement, ma conjointe est mutée ou mon conjoint est muté, du coup, je vais profiter de créer mon entreprise dans le secteur où elle va être mutée, ça sera plus compliqué, mais il y arrivera. Alors, clairement, effectivement, s'il s'implante dans une zone où il est connu, ou en tout cas, il connaît du monde, ou en tout cas, il est reconnu, dans le bon sens, parce que parfois, c'est pas toujours le cas, effectivement, il aura plus de facilité à générer un relationnel et un flux de chiffre d'affaires plus rapidement.
D'accord. En préparant cet épisode, j'ai pu voir que Club Immo Privé était partenaire de la Fondation de France. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'est la Fondation de France, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, et puis quelle est la nature de ce partenariat?
Alors, c'est un partenariat qui est modeste, hein, mais on est parti du principe qu'une petite partie de notre chiffre d'affaires pouvait être reversée à la Fondation de France, amalgamé de tout notre chiffre d'affaires, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas propre à chaque client, mais c'est-à-dire qu'on cotise sur nos honoraires sur la Fondation de France. La Fondation de France, c'est une association qui a comme objectif d'accompagner les personnes, plutôt les personnes âgées d'ailleurs, qui ont des difficultés financières pour réaménager leur appartement, pour refaire une salle de bain, pour isoler phoniquement ou thermiquement leurs biens. Et du coup, comme peut fonctionner Emmaüs ou comme fonctionner des associations comme ça, ils fonctionnent sur des deniers publics et sur des dons. Et donc, nous, effectivement, on participe. Et c'est vrai qu'on n'est pas assez en avant. On l'a mis au départ en avant. Et on a été pris par le lancement de la marque. Et c'est vrai qu'on a pris la décision en janvier à nouveau aussi. Vous voyez, c'est de remettre un peu en avant là-dessus cette
oui, ça, c'est parce que c'est un bel engagement aussi. Et puis,
c'est d'abord, ça fait partie de nos valeurs, hein. Et puis c'est vrai que on a toujours cette image de l'agent immobilier qui est associé à l'argent. En tout cas, dans l'inconscient collectif, il y a ce côté un peu immobilier argent. Et c'est vrai que on est un peu différenciant là-dessus, c'est qu'on a envie qu'une partie de notre chiffre d'affaires soit reversée se reverser à une association comme la Fondation de France, qui est vraiment tout à fait dans le même, dans le
cœur. Oui, qui va aussi, qui agit aussi par rapport aussi à l'habitat et à l'immobilier.
Mais on pourrait très bien, à titre personnel, contribuer à la
Croix-Rouge. Oui, certains contribuent à d'autres éléments. Très bien. Eh ben, on va arriver au terme de cet épisode sur l'immobilier. On a appris beaucoup grâce à vous. Merci. Je vais vous poser du coup une question un peu plus personnelle. Mmh. Est-ce que dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie de tout court, il nous arrive de douter. Est-ce que vous avez un rituel, quelque chose qui fait que vous arrivez à passer outre ce doute, ou que vous avez du coup des réponses ou pas, ou voilà.
Des doutes, on en a tous les matins. Hein. En fait, mais par contre, il se dissipe très rapidement lorsqu'on se met à travailler. Et je crois que le rituel, il est là en fait. Hein. Il est d'ailleurs souvent, moi je le dis, si je me lève pas, si je, alors j'adore les vacances. Hein. Je suis quelqu'un qui a capacité à rien faire.
Hein, à faire le vide.
Mais c'est vrai que le doute, il est très vite dissipé lorsqu'on se met à travailler et à réfléchir, en fait. Donc je crois que c'est vrai que c'est une question que je me suis rarement posée, en tout cas jamais posée de manière aussi directe. Et spontanément, je vous réponds ça. Je pense que c'est ce doute se dissipe par la prise en main des difficultés. Hein. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la politique de l'autruche ou de contourner l'obstacle, eh ben, on essaie de résoudre le problème. Donc je crois que c'est comme ça qu'on résout les problèmes, en règle générale d'ailleurs, je pense.
On avait parlé à un moment de Mathieu Ricard, avec ce nouveau livre de la méditation. Est-ce que finalement il est arrivé au pied du sapin ?
Oui, je l'ai acheté pour mon fils. Voilà, mais je pense que je vais le lire. Oui. Je vais le lire parce que la méditation doit faire partie, à mon avis, d'un bon équilibre d'une personne. Je pense qu'il faut, enfin, en tout cas, en vieillissant, alors je ne sais pas, pas toutes les personnes, mais la sagesse arrivant, il faut peut-être effectivement se mettre un peu à méditer.
Eh bien, merci beaucoup, Christophe, pour cet entretien. Et puis, à bientôt sur les voies de la franchise.
Merci à vous, Claire.
Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.